France Culture.
Le journal est bien présenté par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Réagir face au risque de désertion américaine, objectif d'un sommet crucial à Londres aujourd'hui, où une quinzaine de dirigeants européens sont réunis. Londres, Paris et Kiev travaillent déjà à un plan d'arrêt des combats. Un plan à présenter à Donald Trump, à qui le Premier ministre britannique réclame des garanties de sécurité face à la Russie. La trêve est en péril dans la bande de Gaza. La première phase d'accord vient de s'achever. Une première phase qu'Israël voudrait prolonger. Le Hamas s'y oppose. En réaction, Israël suspend donc l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Son dépistage se heurte à un plafond. Le cancer colorectal est pourtant le deuxième cancer le plus meurtrier en France, tous sexes confondus. Alors la Ligue contre le cancer lance une campagne volontairement provocatrice pour tenter de faire tomber les tabous. Enfin, nous parlerons d'un lieu emblématique pour les étudiants parisiens, mais pas seulement. La BPI, la Bibliothèque publique d'information, qui ferme temporairement ses portes. Une BPI à laquelle notre invité Clément Abbé a consacré un documentaire. Une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement européens ont donc rendez-vous à Londres aujourd'hui pour un sommet de crise consacré à l'Ukraine et à la sécurité européenne, sommet qui apparaît désormais capital après la déflagration provoquée vendredi par Donald Trump menaçant de lâcher l'Ukraine. Un coup de canif dans les relations transatlantiques qui oblige l'Union européenne à s'adapter pour assurer un soutien à l'Ukraine sans l'allié américain et renforcer sa propre défense. Si demain les États-Unis venaient à retirer leur parapluie militaire et nucléaire. Il est minuit moins le quart, alerte Emmanuel Macron, qui appelle donc au sursaut européen. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour Julie.
Vous suivez le déplacement du chef de l'État à Londres. Il doit arriver d'ici une heure maintenant, mais la France et le Royaume-Uni annoncent déjà travailler avec l'Ukraine à un plan pour cesser les combats.
Absolument, le président attendu, vous le disiez, d'ici une heure, donc à la Lancaster House, à quelques pas du palais de Buckingham, avant aussi un conseil européen prévu jeudi prochain. Ce n'est que le début des discussions, mais dès ce matin, vous l'évoquiez dans un entretien à la BBC, le premier ministre britannique Keir Starmer a évoqué et affirmé que la France et le Royaume-Uni travaillaient à un plan pour faire cesser les combats. Aucun détail n'a filtré. L'objectif est bien de le soumettre dans un deuxième temps aux États-Unis. Alors pour plancher sur ce plan encore secret, Emmanuel Macron ne sera entouré tout à l'heure que de ses plus proches, deux de ses plus proches conseillers diplomatiques et militaires, signe aussi de l'activisme des Européens, de leur volonté de s'organiser et de répondre au possible désengagement américain avec un message d'unité. Il est minuit moins le quart, mais on a encore la main, lâchait Emmanuel Macron ce matin dans la presse dominicale, avec l'envie de calmer le jeu, bien sûr, après le clash diplomatique dans le bureau ovale à Washington entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, arrivé hier soir ici à Londres, attendu tout à l'heure autour de la table et sur la photo de famille cet après-midi pour ce sommet qui est probablement le plus important depuis le début de la guerre en Ukraine. En tout cas, selon une source diplomatique, le sommet qui peut tout changer.
Paul Barcelone en direct de Londres avec les moyens techniques de Marc Gervenès. Cet alignement du président américain sur la Russie qui provoque un renversement d'alliance sans précédent ravit en tout cas le Kremlin, selon qui le changement radical de politique étrangère des États-Unis à l'égard de la Russie correspond largement à sa vision, se réjouit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. En plein bouleversement géopolitique, le processus de trêve entre le Hamas et Israël est en péril depuis hier soir. Israël a annoncé qu'elle suspendait l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave tant que le Hamas refusera de prolonger la phase 1 de cette trêve, la phase 1. La proposition a été faite hier soir par Tel Aviv, mais elle est rejetée par le Hamas qui parle de violation de l'accord. Étienne Monin.
Hier soir, Israël a changé les termes du processus. Le bureau du Premier ministre a fait savoir que le gouvernement souhaitait prolonger la phase 1. Israël dit que cette proposition émane de l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, qui aurait considéré que les positions des deux parties étaient impossibles à rapprocher. Le Premier ministre israélien propose donc de s'engager dans un cessez-le-feu provisoire. Il s'étalerait sur la période du Ramadan et de la Pâque juive jusque mi-avril. Il y aurait deux vagues de libération, une dès le premiers jours, une à la fin du processus. Ce matin, le Hamas a rejeté cette proposition. Il demande l'application de la deuxième phase qui prévoit la fin de la guerre. En réaction, Israël a annoncé la suspension des camions dans Gaza pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle menace d'autres conséquences si le blocage persiste. Le Hamas dénonce une violation de l'accord et un chantage mesquin. La phase 2 de l'accord de trêve a toujours été considérée comme le point dur des négociations. Cela touche aux lignes rouges des uns et des autres. Israël a déjà fait savoir, par exemple, qu'elle refusait pour l'instant de se retirer de la frontière sud avec l'Égypte. Le Hamas ne souhaiterait pas déposer les armes et quitter l'enclave comme exigé par le Premier ministre israélien. Il y a maintenant un risque de rupture de trêve. On est au début du Ramadan qui est souvent un moment électrique dans la région.
Le Hamas qui dénonce mais qui fait aussi du chantage ce midi et ajoute une mise en garde. Israël porte la responsabilité du sort des otages. Tandis que la défense civile de la bande de Gaza fait état de tirs d'artillerie et de chars dans la zone de Ran Younes. Après des tractations tendues, grandes distributions et industriels de l'agroalimentaire sont parvenus à se mettre d'accord hier soir, quelques heures avant la fin des négociations commerciales qui devaient impérativement se terminer à minuit. D'après la grande distribution, les tarifs auxquels elle achète une grande partie de ses produits aux fournisseurs resteront stables en 2025. Stabilité qui se répercutera donc en rayon. Une industrie agroalimentaire qui bénéficie du soutien de l'État pour augmenter la performance économique et environnementale des systèmes de production. Entre 2018 et 2023, 6,7 milliards d'euros ont ainsi été engagés pour soutenir l'innovation en agriculture, soit plus d'un milliard d'euros par an depuis 2018, chiffre révélé par la Cour des comptes. Et la France veut accélérer le déploiement dans les fermes de solutions innovantes afin d'orienter l'agriculture vers des systèmes plus résilients au réchauffement climatique, plus respectueux des ressources et de la biodiversité. Innovation pas toujours simple à déployer pour les paysans. Annabelle Grelier.
Les agriculteurs innovent, mais le déploiement des innovations nécessaires à la transition agroécologique est insuffisant, dit la Cour des comptes. Pourtant, reconnaît-elle, la grande majorité des agriculteurs intègrent régulièrement des innovations dans leurs fermes, mais pas encore vraiment de façon massive. Et pour cause, l'agriculture est un domaine où la prise de risque peut coûter très cher. Perdre sa récolte ou diminuer son rendement dans un contexte économique déjà serré, l'échec n'est pas permis. Dans son étude, la Cour des comptes relève que ce sont les méthodes de substitution aux produits phytosanitaires qui sont les plus adoptées et qu'il n'y a pas vraiment de profil type d'agriculteur plus audacieux que les autres. Tout dépend des conseils dont ils bénéficient. Comme il n'existe pas encore assez de références sur ces nouveaux produits, l'agriculteur doit s'appuyer sur ses connaissances et celles de ses pairs pour tenter l'expérience. À noter que la stratégie économique des filières ne les encourage pas à adopter des modèles alternatifs. C'est pourquoi plus une innovation s'écarte des standards, moins elle est adoptée. Enfin, concernant les entreprises qui fournissent et mettent au point les innovations agricoles, elles sont une centaine dans le secteur de l'agritech. Elles ont bénéficié depuis 2021 de près d'un milliard d'euros par an de soutien de l'État. L'agritech française résiste au niveau international, mais aucun champion n'émerge, regrette la Cour des comptes, qui y voit deux freins majeurs, des cloisonnements entre les acteurs historiques et les nouveaux acteurs du système agricole d'une part, et d'autre part, la difficulté d'accès à l'expérimentation, les délais dans le traitement des dossiers d'autorisation de mise sur le marché qui reste bien trop élevé.
Annabelle Grelier, il est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, tous sexes confondus. Le cancer colorectal fait chaque année 17 000 morts et touche 45 000 personnes. Or, dépisté à un stade précoce, la maladie se soigne dans 9 cas sur 10. C'est pourquoi, jusqu'à la fin du mois, les acteurs de la santé sont mobilisés dans le cadre de l'opération appelée Mars Bleu. Et la Ligue contre le cancer lance une campagne choc, Héloïse Weiss.
C'est une affiche mauve et bleue avec un message sans détour pour inciter au dépistage. Emmanuel Ricard, docteur et délégué à la prévention pour la Ligue contre le cancer.
Le message est un message un peu bousculant. Il dit « va chier ». Ça fait des années que la Ligue fait des campagnes classiques et on n'arrive pas à augmenter le nombre de participations au dépistage colorectal. C'est un peu tabou, c'est toujours la question de manipuler les selles. Je pense que ça rebute les gens.
En l'urgence, c'est là, insiste Emmanuel Ricard. 17 000 personnes meurent chaque année du cancer colorectal. Il est d'ailleurs le troisième cancer le plus meurtrier chez les hommes et même le deuxième chez les femmes après le cancer du sein, avec des facteurs de risque bien identifiés.
C'est le tabac et l'alcool, c'est des consommations qui sont en augmentation chez les femmes et qui nous rejoignent chez les hommes. Une moindre activité physique et la sédentarité. Et puis, c'est les régimes alimentaires avec plus d'alimentation ultra transformée, des régimes pauvres en fibres, ce qui explique aussi que ça touche autant femmes et hommes.
Aujourd'hui, un programme de dépistage organisé s'adresse aux personnes de 50 à 74 ans, sans symptômes ni antécédents, et ce, tous les 2 ans.
Les étudiants parisiens sont nombreux à connaître son atmosphère et à aimer ces 10 000 mètres carrés propices pour réviser. La bibliothèque publique d'information du centre Georges Pompidou déménage. Un déménagement provisoire, le temps des travaux à Beaubourg qui doivent durer au moins 5 ans. La BPI sera temporairement relogée dans le 12e arrondissement de Paris, mais pas avant le mois d'août. Cette BPI a été lancée en 1977 et est devenue, au fil des années, un lieu emblématique abritant des actions culturelles et de médiation, fréquenté par plus d'un million de visiteurs en 2023. Alors pour en parler, notre invité est Clément Abbé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et producteur. Vous avez notamment réalisé le documentaire Bibliothèque publique, sorti en 2021. Et vous étiez justement à cette BPI, pas plus tard que vendredi, dans le cadre d'un week-end festif pour son déménagement provisoire. Comment vous l'avez vu, vécu, avant cette fermeture pour quelques mois ?
J'ai retrouvé des usagers que j'avais effectivement filmés en 2018-2019, des gens qui sont toujours habitués, des nouveaux aussi que j'ai rencontrés à l'occasion de la projection de ce film. Et il y avait une ambiance un petit peu, pas d'angoisse, mais oui, il y a toujours pour eux quelque chose un peu déstabilisant dans le fait de changer comme ça de lieu. Après, parce que c'est un lieu auquel ils sont très attachés. Enfin, les usagers considèrent parfois ce lieu comme leur deuxième maison. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent uniquement pour réviser, qui restent ici quelques mois, quelques années. Mais il y a aussi des gens qui restent beaucoup plus longtemps et pour qui c'est un lieu vraiment nécessaire.
Très attachés à ce lieu qui est une bibliothèque unique au monde.
Oui, moi je pense, oui. Déjà parce qu'elle est totalement gratuite, sans inscription, et parce qu'on peut tout consulter sur place. C'est pas des médias qu'on sort, c'est pas une bibliothèque de prêt. Donc les gens restent beaucoup de temps sur place, un temps de qualité. Et ça, c'est quand même assez rare, quoi, d'avoir des endroits comme ça, non marchands, en plein cœur de Paris, dans une des plus grandes institutions culturelles, qui permet de passer du temps gratuitement, ensemble, même si on est chacun concentré sur son média, c'est quand même une vraie communauté qui existe.
Oui, 360 000 ouvrages sont consultables à cette BPI. Pourquoi vous avez voulu mettre en lumière cet endroit ?
Moi, j'étais étudiant et je voyais bien qu'il y avait des gens qui occupaient cette foule silencieuse de façon tout à fait particulière. Des gens qui habitaient la bibliothèque en même temps qu'ils étaient habités. Et j'avais envie de rentrer dans les mondes imaginaires et réels de tous ces gens-là, de façon intime, en chuchotant avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce film.
C'est un endroit où il y a une incroyable diversité de personnes qui s'y croisent. Quelles personnalités vous ont particulièrement marqué ?
Moi, il y a une dizaine de personnes dans le film, mais j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines. Et moi, je les aime tous. De Rocha, qui écoute de la musique baroque en dansant à moitié avec son casque sur les oreilles, à des étudiants qui font un exposé sur la démocratie, à Guillaume, qui lit des ouvrages sur la Révolution depuis qu'il a été licencié et que sa femme s'est séparée de lui. Enfin, il y a beaucoup d'histoires très fortes qui se mêlent à la consommation de biens culturels.
Est-ce qu'on trouve encore ces fameuses personnes en train de lire par terre ? C'est une image emblématique, ça, de la BPI.
Oui, bien sûr, oui, oui. C'est une appropriation personnelle que les gens font du lieu, intime, et ils le considèrent comme leur maison, leur deuxième maison, et parfois leur première, parce qu'ils ont, parfois il y a des gens qui n'ont pas de logement et qui l'occupent aussi, ce lieu. Et ils s'assoient par terre, ils se mettent dans les coins, dans les marges de cet immense espace, et c'est très spécifique à ce lieu aussi.
Merci beaucoup Clément Abbé, je rappelle que vous êtes réalisateur et vous avez notamment réalisé ce documentaire Bibliothèque publique sorti en 2021. Merci également à Éric Chavroux pour la préparation de cet entretien. La météo avec un ciel ensoleillé cet après-midi sur la plupart des régions, excepté du sud de l'Aquitaine à la région PACA où le ciel restera voilé. Les températures atteignent 8 à 12 degrés sur le nord du pays, 12 à 15 degrés au sud. Ce journal a été préparé avec M. Le Chély et Ludovic Auger à la technique.